Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sophia Habita. Vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique, réalisé au nom de l'association Femmes du Digital West. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut, et pourtant, nous nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Montrer à voir, à écouter, prouve que c'est possible. Une fois par mois, je vous proposerai des morceaux de vie, de femmes ou d'hommes qui, je l'espère, vous aideront à oser. Je reçois aujourd'hui Adeline Chaille, directrice de l'agence Micropole. Elle nous présente son parcours qui a toujours été lié au monde du numérique et ou du digital. Elle profite de sa position pour porter au plus haut ses engagements. Celui tout d'abord de la mixité en étant partenaire de FD West et ensuite celui du numérique vert, engagement qu'elle souhaite voir grandir au sein de son agence. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour Adeline. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Sophia, je suis là avec plaisir.
Et donc ma première question est, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Micropole ?
Donc aujourd'hui au sein de Micropole, j'assure la direction de notre agence Grand Ouest, qui est basée donc sur trois agences de Rennes, Nantes et Niort. Donc concrètement, ça embrasse aussi bien la gestion de nos activités de délivrée, que la gestion des activités commerciales. Donc Micropole, c'est donc une agence de services numériques qui est spécialisée sur la transformation digitale et numérique, avec trois grands univers, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Micropole, que sont donc la data, le digital et le cloud.
Tu es à la direction de Micropole depuis
un an et demi,
ouais. D'accord. Et après avoir discuté avec toi, je me demande comment est-ce que tu es arrivée là. Quel était ton rêve de petite fille, je dirais? Qu'est-ce que tu voulais faire comme carrière?
Alors, mon rêve de petite fille, en tout cas professionnelle, en tout cas quand je me projetais dans des métiers, j'en ai que très peu de souvenirs finalement. Le seul que j'ai était lié à ma pratique sportive, parce que je rêvais de devenir une gymnaste olympique, mais je n'étais pas très douée malheureusement dans la pratique, mais j'ai passé sur les tapis de très bons moments, donc c'était chouette quand même, mais j'avais pas forcément de métier qui me faisait rêver ou dont je me souvienne et qui m'ont marqué plus que ça, ou qu'on construit un parcours en fait après de lycée ou d'études derrière.
Mais en sachant pas ce que tu voulais faire. Ce qui est aussi une réponse, et qui est aussi une très bonne réponse, et je le dis aux gens qui ne savent pas, qui stressent parce qu'ils ne savent pas, c'est aussi possible, on peut faire sa vie aussi comme ça. Tu es partie pour faire un bac en sciences.
Ouais, donc j'ai plutôt choisi une voie généraliste et en fait qui ne fermait pas de porte. C'est vrai que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais il y avait quelque part, on sait, ou en tout cas on peut se poser la question différemment de qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, et c'était pas très clair pour moi, mais en tout cas je savais que bon, globalement je pouvais poursuivre, donc j'avais la possibilité de le faire déjà, donc c'est déjà une chance en tant que telle. La voie scientifique, bac S à l'époque, quand ça existait encore, permettait en fait de poursuivre quand même la plus large palette d'études, sachant que j'étais pas du tout littéraire.
D'accord.
Assez naturellement, je me suis orientée vers ça. Ensuite, je me suis posé la question de continuer vraiment dans les sciences, parce que j'adorais tout ce qui était génétique et tous les aspects de recherche qu'on pouvait avoir là-dessus, mais la voie académique pour y aller, elle par contre m'inspirait pas beaucoup, notamment dans les premières années de parcours, hein, quand on en discutait. Donc je me suis plutôt orientée vers un IUT technique de commercialisation. C'était pas une voie que je connaissais, mais c'est quelque chose dont on m'a parlé, parce que j'avais du monde dans mon entourage qui avait fait ça, et finalement les matières telles qu'elles m'avaient été présentées, les portes ouvertes, etc., je me suis dit, ouais, ok, c'est assez pragmatique, c'est-à-dire que ça me parle, c'est plutôt quand même des matières qui sont liées vraiment à la vie de l'entreprise. Et en même temps, si j'ai envie de continuer derrière, je peux, mais si je veux travailler, je peux aussi, à l'issue de la formation. Je me suis vite aperçue que j'avais envie de continuer. Donc ça m'a amenée à faire une école de commerce derrière.
Et le lien entre l'école de commerce et aujourd'hui l'informatique, tu l'as créé comment ?
Je l'ai créé au tout début de mon parcours professionnel. Et finalement, je suis rentrée dedans, puis je n'en suis jamais sortie de la tech en tant que telle. Mais ça s'est fait un petit peu par hasard. J'ai fait une année de césure entre ma deuxième et ma troisième année d'école de commerce. Donc l'objectif, c'était d'acquérir un peu d'expérience en vue d'avoir mon premier job derrière. Et puis aussi d'affiner mon projet professionnel qui était encore assez généraliste. Avec quand même en toile de fond, pour moi, l'objectif d'être indépendante financièrement sur cette année-là. Donc d'avoir des indemnités de stage qui me permettent de m'assumer financièrement sans l'aide de mes parents qui concouraient déjà quand même beaucoup à mes études à ce moment-là. J'ai eu du mal à trouver parce que j'étais à l'étranger en échange universitaire. 6 mois avant de démarrer cette année de césure. Donc ça complexifiait un peu la démarche de la recherche. Puis je voyageais beaucoup, donc j'étais peu devant un écran à ce moment-là. J'ai été mise en relation avec IBM, qui cherchait des stagiaires, qui avait l'habitude de trouver des stagiaires dans d'autres écoles. Et donc du coup, j'ai passé des entretiens en visio avec eux. Comme quoi, c'était déjà possible il y a 15 ans en tant que telle. Et ça l'a très bien fait, et donc ils m'ont prise. Donc c'est comme ça que je suis rentrée, pour répondre à ta question, dans l'univers de l'informatique, on disait plutôt du numérique, à l'époque, dans des fonctions commerciales plutôt, parce que j'étais rattachée au service commercial pour faire de la vente de matériel informatique, des serveurs, voilà, rien de hyper sexy mais extrêmement apprenant pour le coup. Ça, et après je suis retournée faire ma dernière année d'études à l'école de Rennes.
Et tu as trouvé et donc avant même de finir tes études.
C'est ça, ouais. Il y a eu des tickets d'embauche à ce moment-là. En tout cas, c'était comme ça que ça m'était présenté. À l'époque, voilà, de dire... ils cherchaient à recruter des juniors. Et du coup, vu qu'on avait quand même passé un an ensemble, ils m'ont rappelé pour pouvoir intégrer leurs équipes à la sortie de mon école. Et donc, en fait, j'avais en effet signé mon contrat de travail avant d'avoir fini mes cours, d'être diplômée, etc. Et du coup, je me rappelle avoir été relancée plusieurs fois par le service RH parce que j'avais pas envoyé ma copie de diplôme. Et je disais, mais en fait, je l'ai pas reçue encore parce que j'ai dû commencer en juillet et j'ai dû être diplômée qu'en novembre parce qu'il fallait que je finisse mon mémoire. Donc j'ai fini mon mémoire en même temps que j'avais commencé à bosser. Ouais, non, ça s'est fait. C'était un peu compliqué parfois, mais ça s'est fait.
Et tu es restée 5 ans.
Et j'ai resté 5 ans dans différents postes,
ouais,
toujours liés au domaine commercial, donc plutôt dans tout ce qui était service d'infrastructure, en termes de grands domaines d'activité d'IBM, sur plusieurs types après d'offres, plusieurs types de clients aussi, dans la sectorisation des clients. Et au bout de 2 ou 3 ans, j'ai été surtout beaucoup amenée à aller sur Paris, donc ce qui était enrichissant en termes de parcours, mais étant sur Nantes, ça complexifiait parfois un petit peu les déplacements, les trajets, surtout dans la durée, 2 ou 3 fois par semaine. Comme je te disais, je mettais beaucoup d'énergie à me déplacer et finalement, cette énergie, elle n'était pas mise dans d'autres activités que j'aurais pu faire pour le travail. Et donc, pour la petite anecdote que je t'ai pas partagée, une fois, j'étais tellement habituée à... Pour moi, prendre le train, c'était comme prendre le bus, quoi. Enfin, c'était automatique. Et un jour, je me suis trompée de quai, je suis allée à Bordeaux, au lieu de rentrer à Nantes. Et c'est que quand même, à un moment donné, peut-être qu'on fait trop de train. Bon, c'était rigolo, j'ai des amis à Bordeaux, ils m'ont accueilli avec plaisir, j'ai dormi chez eux, c'était sympa. Mais bon, quand même, c'était vraiment, j'arrivais toujours 3 minutes avant, c'était hyper timé.
Ouais.
Mais c'est surtout par rapport à ma vie perso, après ça faisait quand même beaucoup de déplacements, donc je me suis mis à la recherche d'un travail qui avait un peu plus de sens, parce que j'aimais bien ce que je faisais, hein, c'était pas le problème, mais en tout cas qui était, qui avait quand même une... qui était près de chez moi, enfin près de... qui était local, voilà, ouais, qui était sur le territoire. Parce que ça me tenait aussi à cœur de travailler finalement sur un territoire que je connais, que j'anime, qui me plaît, etc. Donc j'ai rejoint Solucom, qui est devenu Wavestone 4 ans après, donc c'était en 2012. Cabinet de conseil en management, en organisation, en transformation digitale. Toujours très lié finalement avec l'industrie de la tech, parce que mes donneurs d'ordre, mes clients étaient quand même majoritairement dans ces métiers-là, avec pour vocation d'accompagner le développement du bureau nantais en termes d'effectifs. On a plus que doublé de taille pendant que j'y étais. Je ne suis pas seule à avoir concouru à ça, mais en tout cas, c'était une très belle aventure. Et donc ensuite, plutôt dans le management commercial. Et j'en suis partie parce que j'avais envie de découvrir autre chose, pour rejoindre vraiment pure agence digitale et plus proche finalement vraiment de la tech en tant que telle, donc chez Nivi. Assez rapidement, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Micropole. Ça coïncidait vraiment très bien avec le projet professionnel que je souhaitais, qui était de sortir des fonctions pure business, parce que je pense qu'en plus de 10 ans, j'en avais fait un petit peu le tour, et j'ai envie d'aller plus loin en fait aussi, et pas uniquement d'être plutôt au démarrage des histoires qu'on a avec nos clients, même si finalement quand on travaille depuis plusieurs années avec eux, on les connaît bien, et on n'est pas à côté d'eux dans les projets. Et donc du coup, l'histoire de rencontre que j'ai eue avec Micropole et donc cette proposition d'en prendre la direction Grand Ouest coïncidait vraiment extrêmement bien au moment où moi en plus j'avais envie de faire j'avais commencé à enclencher autre chose. C'était une longue réponse, hein.
T'y allais de pieds joints, tu n'as pas hésité?
Alors si, j'ai hésité forcément, ouais. J'ai hésité, oui et non. Je pense que dans mon fort intérieur, j'hésitais pas, parce que le projet me plaisait, les personnes que j'avais pu rencontrer aussi m'avaient donné confiance dans le fait que c'était un beau projet et qu'il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien, de toute façon, même si après on peut avoir plein de surprises. Mais je me suis quand même évidemment posé la question, ok, est-ce que je vais réussir à relever le challenge, etc. Ouais. En même temps, en me disant, en même temps, si t'essayes pas, tu ne sauras pas. Donc, t'as envie de dire oui, vas-y. Et je regrette pas du tout.
Comment est-ce que tu es vue, perçue? Mais ça, tu me disais qu'il fallait que je demande aux gens. Et c'est tout à fait vrai. Mais comment toi, est-ce que tu perçois ton rôle de manager plus au milieu de des hommes? Parce que vous êtes deux femmes, tu me disais, deux femmes directrices, une à Lyon. Et toi, comment est-ce que ça se passe dans cette atmosphère? J'ai cru vraiment que ça se passait bien.
Oui, j'ai pas du tout ressenti quand je suis arrivée déjà de barrières ou un accueil différent ou frais, enfin, par rapport en fait que je sois une femme. J'ai plutôt senti que c'était pas vraiment un sujet. Et donc, de fait, c'en est pas devenu un parce que a priori en fait on avait déjà assez de choses à faire comme ça en termes de projets à réaliser, de missions, de challenges, de transformations à faire pour que on s'encombre pas de ça collectivement peut-être, mais en tout cas moi je l'ai pas du tout ressenti. J'ai jamais ressenti comme un frein. Peut-être même que c'est un différenciateur en fait, et que du coup c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, on peut essayer de le voir comme ça. Moi ça m'a jamais ni freiné ni posé de problème dans l'environnement que je peux avoir ou que je peux côtoyer aujourd'hui au sein de Micropole, d'être une femme en tout cas.
Et est-ce qu'au sein de ta carrière tu as senti quelques frictions ou réticences?
Alors, assez peu, mais c'est certainement aussi parce que dans les choix d'entreprise que j'ai pu faire quand j'ai changé, était peut-être un peu à l'écoute de la position des femmes dans l'entreprise, et ça c'est du ressenti ou du feeling qui passe par quand on passe un entretien de recrutement, quelles questions on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut aussi en étant curieux sur comment ça se passe, quel va être son écosystème de collègues, etc., pour ressentir un petit peu la culture. Donc ça m'est arrivé une fois d'avoir un entretien de recrutement où très clairement des questions m'ont été posées par rapport au fait que je sois une femme et quels étaient mes projets de vie, hein. Donc on voit très bien de quoi on parle dans ces cas-là vis-à-vis de ça, surtout quand on a l'âge pile-poil moyen français d'avoir des enfants. Donc là, personnellement, j'ai passé mon chemin. Et puis, à mon avis, la personne l'a aussi ressenti parce que personne ne souhaitait donner suite. Donc, j'ai jamais eu trop ces sujets-là, mais aussi parce que j'ai choisi certainement, de manière consciente ou inconsciente, des sociétés qui étaient déjà matures par rapport à l'égalité femmes-hommes dans le milieu de l'entreprise.
Dans ton recrutement, est-ce que tu fais attention à ce que c'est une femme, un homme? Est-ce qu'il y a une question de quota qu'on a évoqué tout à l'heure? Ton point de vue était intéressant.
Alors, aujourd'hui, pas du tout. Ce filtre-là n'existe pas, en fait, très clairement. Pour la simple et bonne raison qu'on est plutôt sur un marché pénurique et en tension sur les métiers du numérique, de la data, du digital, du cloud. Donc, le seul regard qu'on a, c'est celui de la compétence. de toute façon. Donc, et de comment est-ce qu'elle va matcher avec et notre culture d'entreprise. Ça reste toujours une rencontre, en fait, un recrutement. Donc la diversité ou la mixité est pas du tout quelque chose qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas dans le recrutement. Par contre, c'est un axe sur lequel, étant donné qu'on est sur des métiers qui sont plutôt pénuriques, il faut qu'on travaille parce que ça va permettre d'avoir plus de compétences. Donc ça, on se doit, nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, de favoriser ça au maximum. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, moi en tout cas, je suis très convaincue en tant que telle. On est ouvert au parcours de reconversion et on est ouvert à la diversité, en règle générale, des profils parce que ça apporte un regard qui est différent et une performance collective qui est, en règle générale, supérieure. Donc c'est de la performance, on en discutait, en effet, qui peut être financière, qui est dure à évaluer hein, parce que c'est extrêmement indirect et on a plutôt des études qui le montrent sur le top management. Et donc là, c'est pas de ça dont on parle vraiment. Mais c'est, je pense aussi, plein d'axes qu'on va pouvoir travailler sur les angles RH, de management, de bien-être en entreprise, etc., qui sont là, je pense, extrêmement bénéfiques quand on a des parcours qui sont différents, parce qu'on a des idées différentes. Donc on va travailler avec ses collègues de manière différente. Et en règle générale, on arrive à des résultats qui sont plutôt sympas.
Et la deuxième question, c'est donc sur le numéro vert. Comment est-ce que Micropole et toi-même, je pense, parce que les deux doivent être liés, tu l'as bien démontré. Comment est-ce que tu es arrivée à cet engagement-là pour Micropole ?
Ça part d'une conviction plutôt personnelle, à la base, hein, qui est d'avoir conscience qu'on est dans un monde qui est fini, avec des ressources limitées. Et du coup, dans ma vie personnelle, je suis très sensible à toutes les problématiques environnementales. Et j'essaye au mieux, et c'est extrêmement imparfait, donc tous les jours j'essaye de dire, tous les ans plutôt, j'essaye d'ajouter, on va dire, une pierre à mon parcours vers plus de sobriété dans ma vie personnelle, et c'est pas évident. Mais je me suis dit que ma fonction, comment est-ce que je pouvais, finalement, ça me donnait une marge de manœuvre, ou un écho, ou une écoute, qui me permettait de pouvoir transposer cette conviction personnelle à une conviction que je peux incarner et en tout cas essayer de faire vivre dans l'organisation Micropole. Et ça rejoint en plus, du coup, à mon avis, une deuxième conviction, c'est-à-dire que de toute façon, le marché va évoluer dans ce sens. Et on le voit très bien, l'actu, on le voit de plus en plus. Je pense que ça a été accéléré avec la crise sanitaire depuis 12 mois. Énormément de choses qui bougent, de conférences, d'articles, d'interventions sur le sujet. Et j'avais déjà, en fait, moi, cette conviction comme quoi c'était forcément quelque chose vers lequel le numérique allait aller. Et j'ai l'impression que c'est en train quand même de se passer. Et du coup, il faut que Micropole, enfin, en tout cas, je souhaite, en tout cas, j'ai proposé, et je suis pas le seul, je suis pas la seule dans ce sens-là, qu'on prenne en charge le sujet pour pouvoir être prêt au moment où finalement c'est quelque chose qui deviendra beaucoup plus standard. Donc ça passe par développer des compétences, ça passe par, du point de vue de l'organisation, l'intégrer dans les chantiers RSE. Donc il faut aussi s'acculturer, se former soi-même et ensuite faire de l'émulation autour de ça. Donc tout ça a démarré cette année, j'espère va cranter de plus en plus rapidement, mais en tout cas il y a des bonnes premières pierres qui sont mises. Il y a beaucoup de travail, l'échelle elle est énorme, mais en tout cas on s'y attelle et en fait ce qui est top, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que quand on recherche et qu'on parle du sujet, on trouve finalement plein de personnes dans le groupe qui sont déjà sensibles, qui sont déjà acculturées, qui ont déjà plein d'idées, et ça nous fait avancer. Donc voilà, et à Nantes on essaye de faire des premiers projets en intégrant des bonnes pratiques, notamment digitales, parce que c'est un petit peu plus mature le marché aujourd'hui. Et on fait des travaux internes de recherche sur la data et comment allier finalement une sobriété dans la stratégie data, dans l'implémentation des architectures de data pour nos clients. Et ça, c'est de faire une conviction et d'expérimenter autour de ça.
On va aborder les deux dernières questions. Quel serait ton conseil, on va dire, pour les femmes en général, qui peut s'appliquer aussi aux hommes, je le dis toujours, on ne ferme pas les portes, parce qu'on parle de mixité. Donc, quel serait ton conseil pour les gens qui veulent travailler dans l'IT, par exemple ?
Alors, je pense qu'on a un conseil qui est un petit peu plus généraliste que ça, qui est d'être force de proposition en règle générale. Et moi, c'est quelque chose, je pense, j'avais un profil assez scolaire à la base, donc je faisais bien ce qu'on me disait de faire, et j'étais contente de ça, et j'attendais qu'on me dise c'était bien, tu as bien fait ton travail. Ah. Bon, ça marche pas dans la vie professionnelle, je vous le dis tout de suite. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ça, et à me dire en fait, le parcours, c'est toi qui le construis. Donc si tu as envie de faire des choses, il faut pouvoir proposer, il faut pouvoir s'autoriser à le faire et à s'entourer des personnes qui ont envie de le faire avec toi. Et en général, ça marche, en fait. C'est fou. donc moi, j'ai décliqué un peu tard. Donc si ça peut servir à des gens plus tôt, qu'ils n'hésitent pas. Voilà, ça paraît être un lieu commun et absolument dingue, ce que je viens de dire. Mais c'est vrai que... en tout cas pour moi ça a été très vrai, donc voilà, et depuis je suis bien plus heureuse dans mon parcours professionnel, donc c'est bien. Et puis la deuxième chose, plus pour la tech on va dire, et plus pour les femmes dans la tech, c'est de faire des émules, parce qu'on manque de talent, on manque de talent au global et on manque de femmes dans la tech encore plus. Donc faire des émules autour de soi en partageant la passion qu'on a pour son métier, on a quand même une chance, c'est qu'on est dans un métier qui change. Dans 10 ans on fera pas le même métier que maintenant dans la tech, et c'est super en fait. Et donc du coup, et c'est accessible pour plein de types de profils, donc du coup faut surtout pas se fermer les portes. Et quand on y est déjà, bah du coup faites des émules et partagez la passion qu'on peut avoir pour pouvoir donner des idées et des inspirations à tout niveau autour de soi. Je crois beaucoup au cercle concentrique ou à la tache d'huile. C'est mieux le cercle concentrique.
Oui, c'est mieux.
voilà, où on se dit bah, finalement, les petits pas servent autant que les grands rôles modèles, très certainement, pour pouvoir enclencher ce changement qui doit se faire à tellement de niveaux qu'on ne sera pas de trop pour essayer.
Et la dernière, est-ce que tu as une lecture, un podcast ou toute autre œuvre que tu aimerais partager?
Alors, cette année, j'ai dévoré une série de livres qui s'appelle La Passe Miroir. Donc, pour tous ceux qui adorent les livres en série, qui sont pleins d'action, un peu en projection de science-fiction, etc., ça va beaucoup vous plaire. Voilà, à tous ceux à qui je l'ai conseillé, ils ont adoré. Donc, mais c'est un livre qui a un très grand succès, qui est maintenant pas mal connu. Donc, ça, c'était top. Et puis, j'ai une lecture manquée cet été, qui était l'entreprise contributive et qui est un essai sur la conciliation du milieu de l'entreprise avec les limites planétaires. Ça fait, je voulais me nourrir aussi de points de vue différents, au-delà du numérique responsable sur lequel j'ai pas mal bouquiné, sur finalement les modèles économiques et les impacts en fait, de la transition écologique. Mais j'ai raté mes livraisons et du coup le colis est reparti le jour où je suis partie en vacances, et du coup je l'ai toujours pas récupéré, mais je suis sûre que ce sera passionnant. Voilà.
Ça sera le mot de la fin, Adeline. Je te remercie infiniment d'avoir accepté encore une fois, et ce fut riche et intéressant.
Bah, merci beaucoup de ton accueil, dans tous les cas, de l'échange.
À bientôt.
À très bientôt.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis les liens utiles sur le site femmesdigitalouest.fr. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.